Cette émission vous est présentée par OM3, la marque spécialiste des compléments alimentaires riches en oméga 3. La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.
Bonjour Violaine.
Bonjour Fabrice.
Violaine Chaumont en pleine forme, mais qui aujourd'hui va nous faire un petit peu peur. Violaine, vous allez appuyer là où ça fait mal, vous allez en tout cas soulever un sujet et traiter un sujet qui pose question à beaucoup de personnes, notamment les consommateurs de compléments alimentaires qui s'inquiètent de voir tous ces rappels produits pour motif de pesticides. Et vous avez dit, ok, je m'en occupe, Super Violaine, traite le sujet.
alors, Super Violaine, je ne sais pas, mais effectivement, Fabrice, j'ai choisi de vous parler de ces rappels de l'eau et puis surtout des pesticides de manière globale, parce qu'aujourd'hui dans la presse, on trouve beaucoup d'articles, que ce soit, comme vous l'avez dit, sur les rappels de l'eau de compléments alimentaires contaminés, ou vous avez un dernier rapport de l'ANSES qui vient d'être publié sur la contamination de l'eau potable, c'est-à-dire l'eau du robinet, en pesticides et différents polluants. Donc j'avais envie de vous faire une chronique pour vous donner à la fois mon avis, si ça intéresse quelqu'un bien sûr, mais non, surtout sans blague à part, pour vous expliquer pourquoi on trouve encore des pesticides interdits dans les produits alimentaires, faire un peu le tour de quels sont les risques associés aux pesticides, sans enfoncer forcément des portes ouvertes, mais pour vous expliquer le pourquoi du comment on repousse quand même un petit peu cette problématique concernant le consommateur. Je vais vous expliquer ça. Et puis, après, j'ai fait le tour des recommandations en France, en Angleterre, aux États-Unis, qui sont données aux consommateurs, à vous et moi, Fabrice, pour essayer de s'en débarrasser lorsqu'on est dans sa cuisine, lorsqu'on achète des légumes, lorsqu'on jardine, lorsqu'on mange des fruits, etc. Puisqu'il y a un certain nombre de, pas d'astuces, mais de petites règles que l'on peut appliquer pour essayer de ne pas s'exposer à ces pesticides. Alors le sujet, il est un petit peu pessimiste, assez fataliste. D'ailleurs, c'est ce que je me suis dit en vous préparant la chronique, parce qu'en fait, on a l'impression d'être cerné de toutes parts et que cette contamination des eaux, des sols, etc., elle est tellement ancrée dans l'environnement que pouvoir faire face, ou du moins pouvoir fuir face aux pesticides, c'est un peu compliqué. Donc c'est un sujet qui n'est pas très très gai, mais voilà, on va faire le tour de la question en essayant toujours d'être assez impartial. Et puis voilà. Fabrice, voilà. Alors dites-moi et si voilà.
on va commencer, parce que c'est vrai qu'on voit des là, pour parler de compléments alimentaires, il y a des rappels même de compléments alimentaires de bio en disant voilà, pesticides, bifenthrine, chlordane, oxyde d'éthylène, enfin il y a plein de choses qui font qu'on se dit, comme vous dites, qu'est-ce qu'on a le droit de prendre, on est cerné.
Oui, on est cerné. Bah, si on commence dans le vif du sujet sur ces rappels conso. Donc, vous avez peut-être vu dans la presse, parce qu'il y a un certain nombre de journaux de santé ou des journaux, la presse quotidienne, qui se sont fait l'écho de ces rappels sur la base rappel conso de la répression des fraudes et des autorités, sur tout un tas de compléments alimentaires qui sont contaminés par du chlorpyrifos. C'est un pesticide qui est interdit depuis 2020. En Europe, puisqu'il y a eu une interdiction qui a été émise. Et donc, vous avez un certain nombre de compléments alimentaires qui ne sont pas conformes. Alors, pourquoi ils ne sont pas conformes? Pour vous donner tout de suite l'explication avant de parler de ce rapport de l'ANSES sur l'eau. Alors, surtout les produits que vous voyez non conformes par rapport à ce pesticide, c'est simplement que lorsque vous avez une interdiction européenne, même française, qui est donnée, vous avez des périodes de transition. Et ces périodes de transition, en fait, eh bien, elles vous disent que avant une certaine date, les cultures qui ont été traitées avec ce pesticide peuvent être utilisées, donc elles peuvent potentiellement se retrouver après dans les chaînes de production, les végétaux concernés, les plantes peuvent être extraites, etc., etc. Et puis tout ce qui a été, on va dire, cultivé après cette date, eh bien, effectivement, n'est pas traité avec le pesticide interdit. Donc, sur tous les compléments alimentaires que vous voyez sur la base de données rappel conso, donc ne vous dites pas que les laboratoires sont forcément de mèche et essayent de vous mettre des pesticides dans les produits, c'est simplement qu'ils se fournissent auprès d'extracteurs de plantes, qui eux-mêmes se fournissent auprès de producteurs de plantes, et on a ce jeu de périodes de transition, et à chaque fois qu'on a des périodes de transition sur des pesticides interdits, on se retrouve avec des produits qui, finalement, au bout de la chaîne, ne sont pas conformes aux normes. Alors, du fait de l'interdiction qui a été donnée par l'Union européenne, on se retrouve maintenant avec plus de contrôle, donc c'est pour ça que ça apparaît, et il faut attendre un petit peu pour que le marché, on va dire, se régule, que la production se régule, que les extracteurs de plantes et les producteurs de compléments alimentaires puissent faire des produits qui sont conformes à la réglementation. Mais si on débute par ce sujet-là, il faut bien prendre conscience que ce sont des changements réglementaires Et ces changements réglementaires, effectivement, ils sont sur la base d'études scientifiques, etc. Mais on verra après, je donnerai un petit peu plus de détails du coup sur ces limites qui sont appliquées. Le deuxième sujet que vous voyez beaucoup dans la presse aujourd'hui, c'est le rapport de l'ANSES. Vous savez, l'Agence nationale de sécurité des aliments française qui émet des rapports sur la qualité de l'eau du robinet. Puisque l'ANSES est dotée d'un laboratoire qui, tous les 3 ans, va faire des analyses de l'eau du robinet, histoire de voir l'évolution des polluants de cette eau. Alors, bien évidemment, l'eau du robinet est une eau qui est traitée par des centrales, etc. Mais il n'empêche qu'un certain nombre de polluants ne font pas l'objet de traitements appropriés pour voir leur concentration diminuer jusqu'à leur disparition dans l'eau que vous avez au robinet. Et ce rapport, qui est relayé par la presse, qui est relayé par les journaux, etc., met en évidence qu'effectivement, il y a des pesticides qui sont présents dans des concentrations qui dépassent les limites maximales imposées. On a notamment le chlorothalonil, pour son petit nom, qui dépasse, et donc la presse s'est fait l'écho de cette non-conformité. Alors ça dépend des régions, hein. Vous avez l'Île-de-France, la Loire-Atlantique qui est concernée, et vous avez d'autres régions de France qui ne sont pas concernées par cette contamination. D'ailleurs, entre nous, Fabrice, la CES met aussi en évidence, et ça j'étais très étonné, de la présence encore de résidus d'explosifs dans l'eau du robinet, notamment des résidus de TNT. Alors ils expliquent que c'est dû au fait que certaines eaux peuvent venir de sites anciennement, sites d'armement de la Première Guerre mondiale ou qui sont pas très loin de sites d'armement. Donc on a des contaminations des sols du fait des résidus d'explosifs qui se disséminent comme ça à travers les terrains. Si on revient à nos pesticides, et vous allez voir la manière avec laquelle les autorités, je ne vais pas dire que les autorités s'arrangent du problème, mais traitent le problème. Si dans le cadre du complément alimentaire, donc on a des rappels de l'eau, donc on vous invite à ne plus consommer les produits, voire à les ramener à la pharmacie. Dans le cadre de cette enquête qui a été menée par l'ANSES, où on a des dépassements de teneur en pesticides, eh bien, ce qui se déclenche derrière au niveau des autorités, c'est pas bien évidemment le rappel de l'eau du robinet et puis l'interdiction de consommer son eau au niveau du robinet. Les autorités mettent en place ce que l'on appelle une VMAX. Et la VMAX, si vous voulez, c'est une espèce de limite maximale dérogatoire qui va être évaluée au regard des données de toxicité des pesticides pour se dire, bah, en fait, même si ce n'est pas conforme réglementairement, on sait qu'il n'y a pas de danger pour les consommateurs. Donc, on va mettre une dérogation et on va pouvoir continuer à boire son eau au robinet, son eau du robinet sans aucun souci. Donc vous voyez, les choses sont traitées un petit peu de manière différente, mais ce que ça met en lumière, et c'est tout le sujet de la chronique, c'est qu'en fait, lorsqu'on parle de pesticides, on parle d'une contamination qui est quasiment automatique et pas incontrôlable, mais c'est très difficile aujourd'hui d'aller faire une production de légumes, de fruits, même si on est en bio, qui ne contiennent aucune trace de pesticides parce que les sols sont contaminés et ça vient donc contaminer aussi les eaux qui vont être produites, traitées pour la consommation de tous les jours, l'eau du robinet. Donc on voit bien que la manière avec laquelle les choses sont gérées par les autorités, c'est pas vraiment homogène. D'ailleurs, je tenais à dire que, et on verra dans les recommandations, que souvent, on va dire, bah voilà, il faut consommer des produits issus de l'agriculture biologique, c'est parfaitement vrai. On a aussi des labels qui sont apparus sur le marché, Fabrice, notamment le zéro pesticide. Il faut bien savoir que d'un point de vue réglementaire, on ne peut pas avoir du zéro. On est toujours à 0,01 mg par kilo. Alors, ça parlera peut-être pas à nos auditeurs, mais c'est à l'état de trace, c'est pas forcément quantifiable, mais c'est détectable. Donc, le zéro pesticide, c'est très difficile à obtenir. Et donc, les autorités, comme ça, on va dire, évoluent entre différentes solutions, des dérogations, des rappels de l'eau, etc., etc.
Violaine, il est temps. Vous savez que je suis toujours épaté. Dans la manière où je me dis, mais quand est-ce qu'on va faire une petite pause? Vous devez savoir qu'il y a des pauses.
Allez la faire.
Et en plus, là, comme on est dans un sujet un petit peu, pas anxiogène, mais prise de conscience, on écoute, même si, quelque part, il y a des choses, des pistes que vous nous donnez qui sont un peu rassurantes, eh bien, donc, il est temps de danser maintenant. On va mettre une petite ambiance sur une radio et on va se retrouver après pour la suite de cette émission avec Violaine Chaumont. Tout de suite.
Les oméga 3 sont indispensables au développement et au fonctionnement du corps. Alors, pour vous supplémenter, autant prendre la meilleure des qualités. OM3. Votre spécialiste des compléments alimentaires riches en oméga 3 formulés à base d'huile de poisson sauvage purifiée. OM3, des oméga 3 à la biodisponibilité optimale et certifié Friend of the Sea. Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et au maintien d'une vision normale. L'EPA contribue à une fonction cardiaque normale. Plus d'infos sur om3.fr. Pour votre santé, bougez plus.
La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.
Violaine Chaumont quand même qui nous rappelle qu'il y a des explosifs dans l'eau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous buvez un peu d'eau et que vous êtes d'une humeur un peu explosive, voilà, c'est tout.
On parle... Il y a peut-être un lien de causalité, effectivement.
On parle donc de ces pesticides, de ces rappels de produits et de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous voulez faire maintenant, mais vous alliez, au cours de cette émission, parce que je n'ai pas le déroulé, mais nous parler de ces nouvelles limites, justement, de ce que ça veut dire. Violaine, je vous laisse poursuivre cette émission très intéressante et qui, je pense, va faire parler.
Alors, oui, alors sur les limites, c'est ce que je te disais précédemment, Fabrice, c'est qu'en général, lorsqu'on a un pesticide qui est interdit, donc comme le cas des deux pesticides que je vous ai cités précédemment, on a une limite qui est notée à 0,01 mg par kilo, ça correspond à un état de trace, c'est une limite qu'on appelle de détection, mais ça signifie bien que le zéro n'est pas atteignable. Donc ça, c'est un sujet qu'il faut vraiment bien avoir en tête, à cause de cette contamination quasiment inéluctable des sols et donc de l'eau de consommation. Par rapport à cette limite, par rapport aux limites de dérogation qu'établissent les autorités, je voulais vous mettre aussi en lumière un point que j'ai travaillé pour la chronique, dont je n'étais pas au courant, j'avoue, qui est, alors, quel est le risque associé aux pesticides ? On a tous en tête les risques pour les agriculteurs, les utilisateurs assidus, les professionnels, etc., puisqu'il y a eu beaucoup de cas de maladies professionnelles reconnues, avec des cas de cancer, de pathologies liées à l'immunité, à tout ce qui était neurologique, etc. Et on a tous en tête donc ces affaires dont on a entendu parler. Par contre, ce dont on entend moins parler, c'est le risque lié aux consommateurs. Alors, les autorités et les instances scientifiques ont une évaluation qui est assez par palier, si je puis dire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si on connaît le risque de manière majoritaire de chacun des pesticides utilisés individuellement, les autorités se refusent d'extrapoler le risque associé à chacun des pesticides à un risque pour un produit, pour le consommateur, je veux dire. Parce qu'ils considèrent que le consommateur, en fin de compte, il ne va pas être exposé comme un utilisateur professionnel. Vous n'êtes pas là en train d'utiliser un produit phytosanitaire dans votre cuisine. Et donc, vous allez être exposé à une multitude de petites molécules, de résidus, de métabolites, de pesticides. Les métabolites, c'est les produits de dégradation des pesticides. Et donc, du coup, je suis tombée sur un certain nombre d'études qui font le point sur quel est le risque pour le consommateur de consommer ce mélange de pesticides, parce que dans la journée, vous allez manger plusieurs fois des fruits et légumes, vous allez éventuellement aller aussi prendre, on va dire, des insecticides, anti-moustiques, etc., qui font partie quand même des produits phytosanitaires. Et donc, les études mettent en évidence qu'en fait, effectivement, on ne peut pas extrapoler le risque d'un pesticide aux consommateurs comme ça, parce que quand vous avez des mélanges et des cocktails de pesticides, vous avez des effets antagonistes. C'est-à-dire que les pesticides vont avoir des effets qui vont s'annuler entre eux. Et pour être un peu plus précise, il a été considéré que les pesticides, ils sont biologiquement actifs, Fabrice. C'est-à-dire que ces pesticides, même si à la base ils sont prévus pour agir sur des cellules végétales, par exemple, dans un champ, ou sur une racine, ou sur une feuille, eh bien ils peuvent agir aussi sur nos cellules. Alors là, j'enfonce un peu des portes ouvertes, vous allez me dire, mais ce qui est intéressant, c'est que si les autorités ne montent pas plus au créneau, et c'est mon avis très personnel, ne montent pas plus au créneau en matière de risque pour le consommateur, c'est qu'ils se refusent de prendre en considération le risque des pesticides de manière individuelle. Ils veulent à tout prix avoir des éléments sur le risque lié au mélange. Et quand vous regardez les études, eh bien finalement, c'est juste l'enfer parce que vous avez tellement de combinaisons possibles que, voilà, on a des mélanges de pesticides, eh bien, ils vont se potentialiser. Vous avez des mélanges de pesticides qui vont avoir un effet qui va s'annuler. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas vraiment d'effet sur le corps humain parce que vous allez avoir des effets antagonistes. Vous avez des effets synergiques selon les cocktails de pesticides. Et comme ça, vous trouvez des tableaux dans différentes études qui vous disent si vous consommez tel résidu de pesticides avec tel résidu de pesticides, eh bien, on a un effet qui se potentialise, par exemple, sur les synapses, ou sur les mitochondries, ou sur le système endocrinien, etc., etc. Donc, l'évaluation est extrêmement complexe. Puis là, je vais me permettre une petite discrétion, Fabrice, qui fera peut-être bondir certains. Vous savez, dans le domaine des huiles essentielles, on est aujourd'hui dans un gros débat qui est de dire comment on évalue la toxicité des huiles essentielles, puisque à la base, les autorités souhaitent évaluer molécule par molécule. Et les industriels et les extracteurs de dire non, on doit évaluer le totum de l'huile essentielle, puisqu'on ne peut pas associer le risque d'une huile essentielle au risque de chacune de ces substances prises isolément. Ce que fait exactement les autorités pour les pesticides. Sauf que c'est refusé pour le moment pour les huiles essentielles, ou du moins c'est en cours de discussion. Mais pour les pesticides, ils appliquent clairement ce principe de dire « Oh ben non, on va quand même pas étendre les risques associés à une utilisation massive d'un pesticide par un agriculteur eh bien un consommateur qui va finalement être exposé à un cocktail de pesticides. Bon, je ne sais pas si tout ça est très clair pour vous, mais ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, les risques associés aux pesticides, au niveau du consommateur de vous et nous, Fabrice, il est difficilement évalué par les autorités, par les instances scientifiques, ce qui fait que, eh bien, on se retrouve avec des limites dérogatoires, on se retrouve avec des limites qui ne sont pas à zéro, mais qui sont à 0,01. Donc, c'est pour vous expliquer la complexité du sujet et les raisons pour lesquelles, parfois, on a l'impression que, non pas que les choses sont cachées, mais ne sont pas vraiment transparentes. Bon, la difficulté d'évaluation est extrêmement importante. Bon, après, on pourrait très bien se dire, le pesticide, ça présente des risques sur le système immunitaire, endocrinien, ça peut entraîner des inflammations de bas grade, enfin, c'est-à-dire silencieuses, parce que ça vient toucher à la mitochondrie, on a des radicaux libres, on a donc un stress oxydant, etc. etc. Mais pour le moment, ce n'est pas vraiment évalué comme ça et de cette manière-là. Après, pour vous rassurer quand même, on a au niveau de l'organisme des systèmes qui permettent de dégrader des substances étrangères, comme les médicaments. Rappelez-vous, Fabrice, on a fait une émission sur le pamplemousse, oui.
Oui, Violaine, ce que je vous propose, on marque une dernière pause, on se retrouve pour la suite de cette émission et vous allez nous rassurer, parce que là, si c'est sur, on rentre dans la phase d'être rassuré, voilà, on va bien respirer, on s'ambiance encore un petit peu, et après, vous venez avec des nouvelles qui, voilà, qui j'espère, vont nous faire du bien, parce que là, je suis parti pour ne plus rien manger jamais dans ma vie.
C'était ça finalement la chute.
On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant.
La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.
Ah, et la suite et la fin de cette émission avec Violaine Chaumont sur Nutri Radio. Violaine, vous savez que dans votre émission, en général, on fait deux pauses. Hein. Je vous le dis comme ça pour calibrer un petit peu ce que vous emportez. Vous êtes une femme passionnée, vous êtes une femme qui aime aller jusqu'au bout des choses. Et quand vous êtes dans ce discours, en plus, un sujet qui est très important aujourd'hui sur les pesticides, on l'a vu. Hein, et je vous invite, chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, eh bien, à réécouter cette émission qui sera disponible à partir de dimanche soir, 18h, sur nutriradio.fr, notamment, et sur toutes les plateformes de streaming audio. Vous allez voir, vous allez en apprendre beaucoup. Et là, on est sur la phase. Après avoir dit qu'il y a des pesticides partout et que visiblement aussi au niveau des huiles essentielles, ça va bientôt évoluer avec, puisque vous, vous êtes au fait de la réglementation, les huiles essentielles, ça va évoluer, il y a une législation qui va être un peu plus stricte avec ces huiles essentielles, Violaine ?
Oui, alors on sort un peu du sujet des pesticides. Ce que j'ai voulu exprimer, c'est que sur l'évaluation de la toxicité des huiles essentielles, parce qu'on a un règlement qui s'appelle le règlement REACH, qui a pour vocation d'évaluer tous les produits, on va dire, chimiques qui rentrent dans l'Union européenne, les autorités voulaient une évaluation molécule par molécule de l'huile essentielle, ce qui relève quand même d'un travail plus que conséquent quand on voit la complexité d'une huile essentielle. Mais surtout, les industriels et les connaisseurs ont dit « mais c'est pas possible, il faut travailler sur le totum de l'huile essentielle, on ne peut pas lui attribuer des risques associés à des molécules prises isolément, parce que c'est pas du tout la même chose ». Et donc, on a des méthodes et des modèles d'évaluation qui sont en cours, qui sont rejetés par les autorités, qui sont remis sur le tapis, etc. Donc, on devrait voir un peu plus de choses d'ici fin 2023. Ce que je voulais mettre en exergue, moi qui aime bien faire de la comparaison sur les systèmes réglementaires ou scientifiques, c'est que ce raisonnement, finalement, qui était au début refusé pour les huiles essentielles, c'est ce qu'on applique pour les pesticides, puisque les autorités refusent d'étendre un risque lié à un pesticide au consommateur qui va être exposé à une multitude de molécules. Donc c'est ça, c'est là où le bât blesse en fait, dans une espèce de malhonnêteté intellectuelle parfois sur la manière d'appréhender les problèmes. Mais ceci est mon avis, mais c'est aussi l'objet de la chronique, hein, de vous donner une ouverture d'esprit sur la manière avec laquelle les choses fonctionnent au niveau des autorités, des instances scientifiques. Alors Fabrice, pour finir sur cette note quand même de positive, si je puis dire, et rassurante, c'est que donc on a des systèmes de détoxification dans l'organisme, hein, c'est généralement lié au cytochrome P450 qui est chargé avec tout un système de réaction chimique de dégager les substances étrangères. Donc on a quand même la capacité un minimum de métaboliser tout ça. Mais on a quand même des pesticides qui peuvent parfois gêner ces systèmes de détoxification. Mais bon, on est quand même doté normalement d'un minimum de solutions biologiques pour s'en sortir. Et puis après, on a donc nos recommandations. Et j'ai fait le point sur France, Angleterre, USA, parce que je ne voulais pas non plus, encore une fois, raconter des choses que tout le monde connaît, à savoir qu'il faut laver les fruits et les légumes, ça on s'en doute. Mais voilà, j'ai fait une petite comparaison. Et j'ai trouvé que les USA étaient vraiment très, très intéressants sur les recommandations, puisque l'idée, c'est de dire, ben voilà, vous, consommateurs, qui ne pouvez pas jouer sur les conditions de traitement des eaux du robinet, qui ne pouvez pas être dans le champ à contrôler les contaminations croisées entre les pesticides, etc. Donc, les recommandations, bon, déjà manger, si possible, agriculture biologique, si on a les moyens et la possibilité de le faire, c'est toujours mieux parce que les pesticides de synthèse sont en généralement interdits et vous avez une contamination qui est moins importante. Ensuite, effectivement, il y a l'épluchage, au détriment quand même des vitamines et minéraux, parce que comme on le sait tous, les vitamines et minéraux sont généralement au niveau sous la peau, et quand vous épluchez un légume ou un fruit, eh bien vous vous retrouvez avec un peu moins de vitamines et un peu moins de minéraux. Mais la FDA vous donne ces idées-là. Donc déjà, elle vous conseille de laver les fruits et les légumes, même si vous ne prévoyez pas de manger la peau. Il faut toujours laver les fruits et légumes de manière générale, et elle conseille de les laver sous l'eau courante, qui est toujours plus efficace que de les faire tremper pendant 10, 15 minutes ou 5 minutes dans de l'eau. C'est plus efficace pour enlever les résidus. La FDA rappelle aussi qu'il faut toujours se laver les mains à l'eau tiède et au savon, avant et après avoir manipulé des fruits et des légumes frais, Fabrice, hein, histoire de ne pas se retrouver avec des résidus de pesticides sur les mains, de les coller partout chez soi et sur d'autres produits alimentaires. Ça, c'est un point qui est important. Ensuite, on vous dit que la cuisson, si elle n'est pas un moyen d'enlever les pesticides, elle peut casser, on va dire, certains pesticides, certaines molécules de pesticides, et de ce fait, diminuer un petit peu l'exposition. Ensuite, on vous explique qu'il faut, pour tous les légumes à feuilles, comme la laitue, le chou, enlever très clairement les feuilles qui se situent à l'extérieur. Et puis, d'autre façon, il n'y a pas de système efficace à 100% pour éliminer les résidus de pesticides. Et on a d'ailleurs, côté anglais, qui reprend à peu près les mêmes recommandations que la FDA, une remarque qui est tout à fait pertinente pour les consommateurs, hein, parce qu'on a des grandes fiches qui existent, des grandes communications, c'est que beaucoup de pesticides aussi sont systémiques, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans le fruit ou dans le légume. Donc, vous aurez beau les éplucher, les laver, en faire ce que vous voulez, vous allez vous retrouver dans tous les cas avec des pesticides dans les fruits et les légumes. D'où là, le fait de peut-être aller plutôt sur du bio pour minimiser au maximum la présence de pesticides. Ensuite, quelles que soient les autorités, vous avez cette recommandation dans tous les cas de ne pas laver les fruits et les légumes avec des produits de lavage commerciaux, des détergents, etc. Il faut mieux brosser notamment les légumes qui sont durs, comme le melon et autres, les brosser avec une brosse, tout simplement au moment du lavage pour enlever le maximum de résidus, les passer sous l'eau, etc., pour pouvoir enlever le maximum de résidus. Et puis concernant l'eau, Fabrice, pour finir par ça, donc j'ai essayé de faire des recherches sur quels étaient les meilleurs traitements pour enlever les pesticides. Donc au niveau, vraisemblablement, de vous et moi, ça serait éventuellement des carafes avec du charbon actif, avec des filtres à base de charbon actif, pour pouvoir enlever les polluants type pesticides. Alors, certains remettent en question l'efficacité de ces carafes par rapport aux pesticides. Peut-être que les industriels devraient faire quelques efforts d'innovation pour nous proposer des choses plus efficaces. Mais dans tous les cas, un point qui ne sera pas très positif, c'est que je lisais par rapport au rapport de l'ANSES que si demain les centrales de traitement des eaux du robinet devaient investir dans des traitements pour enlever les pesticides de l'eau qu'on consommait, ça serait des investissements beaucoup trop importants et ce n'est pas du tout prévu pour le moment.
D'accord.
Super. Voilà, Fabrice.
Bon, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est la fin de Nutri Radio, tout ça ne sert à rien de toute manière.
Oui.
Violaine Chouba.
Non, mais voilà. Écoutez, je voulais vous faire cette chronique parce qu'on entend beaucoup de choses en ce moment sur les pesticides. Et voilà, c'était quand même important de vous redonner quelques tips, comme on dit, pour essayer de moins s'exposer. Puis il y avait un autre point que je voulais rajouter quand vous jardinez.
Oui, allez-y, n'en jetez plus.
Non, mais n'utilisez pas de pesticides quand vous jardinez, ou du moins pas de pesticides de synthèse. Il y a beaucoup de choses qui sont émises pour les gens qui se sont remis à jardiner, à faire leur potager. L'utilisation de pesticides au moment du jardinage dans de mauvaises conditions parce qu'on ne lit pas la notice, parce qu'on se précipite, parce qu'on fait ça quand il y a du vent, etc. etc. Et la première peut être une des expositions les plus importantes en termes d'exposition aux pesticides. Et surtout, si vous êtes enceinte, si vous avez des enfants, on ne fait pas ça. Essayez d'avoir des solutions beaucoup plus naturelles que l'utilisation de pesticides de synthèse dans votre potager.
Très bien. Violaine, juste un truc. Vous savez, sur quand on a des légumes, des fruits, on veut les nettoyer. Donc, vous avez rappelé quelques tips. Il y en a qui les mettent dans le bicarbonate de soude alimentaire, si vous voulez, et avec du vinaigre. Est-ce que ça, c'est bien ? Alors, le sodium, pardon.
J'ai travaillé sur cette possibilité-là. Alors, sur le bicarbonate de soude, effectivement, il y a apparemment une étude américaine qui stipule qu'avec un pH alcalin, c'est-à-dire un pH qui est supérieur à 7, ça permettrait de mieux enlever les pesticides. Mais j'ai trouvé qu'une étude et j'ai pas beaucoup trouvé d'autres justifications scientifiques. Donc, il semblerait que oui. Apparemment, le vinaigre, pas du tout, même pas pour désinfecter. Mais le bicarbonate de soude, oui, j'ai vu 12 à 15 minutes dans de l'eau avec cette poudre. Mais alors, pourquoi pas? J'ai rien vu de très tangible.
D'accord, ok. Mais ça veut dire que, par exemple, fruits ou légumes bio avec quelques pesticides, on l'a vu, et non bio avec donc plus de pesticides, mais si on le laisse tremper, si on le nettoie de la même manière, le résultat, finalement, c'est aussi bien que non bio.
Non, pas forcément, parce que vous avez toujours cette problématique des pesticides systémiques qui vont rentrer dans le fruit, tout simplement. Et puis, j'ai envie de dire, la qualification de la validation de la méthode de nettoyage de vos fruits et légumes pour s'assurer que lorsqu'ils sont conventionnels, bah, effectivement, le nettoyage est suffisant. Enfin, j'ai pas vu de données là-dessus. Donc, moi, je privilégierais toujours d'aller sur du bio quand on peut pour les légumes et pour les fruits. Parce que vous avez une partie que vous n'arriverez jamais à enlever, en fait.
Très bien.
Et puis surtout dans le frigo, vous les mettez pas ensemble, vous mettez pas des légumes et des fruits conventionnels au contact de légumes bio.
Ah oui, parce que bien sûr, dommage. Les légumes bio, il faut leur frigo particulier, mesdames, messieurs. Maintenant,
vous mettez un bac particulier. Maintenant, mais il faut être un peu cohérent.
Il faut être cohérent. Bien sûr, Violaine, faut pas dire de bêtises, évidemment. Merci beaucoup, Violaine. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission qui sera, faites comme vous voulez. C'est toujours très bien. C'est toujours intéressant. Voilà. Vous avez parlé de ça.
Honnêtement. On verra.
Merci. De nous avoir éveillé, de nous avoir rappelé certaines choses très importantes et enseigné des choses qu'on ne savait pas du tout pour certains. Donc cette émission est disponible en podcast à la fin de la semaine sur nutriradio.fr, donc c'est dimanche 18h, hein, et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Violaine.
Au revoir Fabrice.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio.
La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutriradio.